Radio Campus 106,6.
Qu'est-ce qui se passe ici encore? Vous savez l'heure qui est, putain de merde!
Mais c'est pas vraiment la guerre, dites-moi que je rêve!
C'est pire que la guerre!
Permettez que je jette un coup d'œil à la flèche, je suis médecin.
Moi je comprends rien.
Moi non plus.
Moi non plus.
Et ça, réfugiez-vous dans le détail.
Avouez, cher monsieur, que la mésaventure qui va suivre vous est déjà.
Cette crise est en fait, au départ, un crime.
L'origine de la crise, c'est quoi? C'est
la crise. Traverser la
dans les pays qui ont été fortement impactés par la crise.
Notamment de la part d'entreprises qui faisaient des gros bénéfices.
La crise? Quelle crise?
Cette crise n'est pas terminée.
Allez, on passe au plan B.
Allez, top!
C'est l'heure de le mettre.
Pas tout de rouge, c'est évident.
Parce que ça change, on fait semblant d'écouter, on dit qu'on comprend mais qu'on n'est pas rien, puis dans une heure on s'arrête pour aller casser la graine.
Nous ne voulons pas de la lutte des classes.
Et puis tout à coup, explosion sociale, occupation de l'usine.
Ouais, la révolution par exemple, on sait jamais, vous vendez tout.
Franchement, tu salis le tapis avec ton sang.
C'est quoi vous dire? Que l'engin est révolutionnaire dans ses caractéristiques, mais résolument classique dans sa conception.
Ah, vous m'énervez tellement que vous avez détraqué mon système optique.
Parce que c'est difficile d'expliquer à des...
Si j'étais UGP, on dirait que c'est un dérapage.
Vous dégueulez sur mes foutues femmes oranges,
hein ? Bien évidemment, c'est un repli par rapport à un acquis social.
Nous ne sommes pas là pour rechercher des boucs émissaires.
Enfin, moi, j'ai rien à voir avec les riches.
La connerie à ce point-là, ça devient gênant.
Qui c'est cela?
C'est l'heure de le mettre.
L'heure de le mettre.
Vous allez le mettre où, ça?
Moi, vous allez voir ce que vous allez voir.
Et puis, un petit peu de rouge. Et puis, un petit...
Voilà. 30 ans après, c'est encore le même conseil social, et la chanson, c'est la même.
Il y en a qui font des promesses, d'autres qui donnent des espoirs, et puis à la fin du compte, on n'a rien.
Je n'ai que faire des chômeurs assistés.
Mais tu vas forcément toucher, les jamais tombé en panne de poste. Tu dis tant que je connais pas. Mmh. C'est quand même curieux, non? Tant que tu dis, jamais,
il faut que je sois tout le temps. Merde,
on a honte,
merde!
Avec un rêve, du poil, avec un rêve, du poil.
Aujourd'hui, mercredi 30 décembre 2020, c'est la Saint-Florilège 2020. Saint-Florilège 2020 est le saint patron de ceux qui nous ont bien fait rire toute l'année. L'année 2020 avait pourtant commencé normalement.
La réforme des retraites à laquelle je me suis engagé devant vous sera menée à son terme. Parce qu'il s'agit d'un projet de justice et de progrès social.
Avec son lot de discours clairs.
La valeur du point fait que ça va permettre de valoriser. Quand on prenait les... Si on ne passait pas par les points, ça ne marche pas. Parce que la valeur aujourd'hui...
D'injonctions indirectes.
Il y a une solution, c'est d'arrêter.
Oui. Mais
d'arrêter de sortir, manifester comme ça.
De lapsus.
Eh bien, nous vous proposons un grand bond en arrière plutôt que de regarder sans arrêt dans le rétroviseur.
De moments de rigolade.
Griveaux est un con. Parce que le mec qui est ministre qui fait ça, il est con.
La République, c'est nous et vous, vous êtes rien.
Et de franches vérités dites les yeux dans les yeux.
Et les risques de propagation du virus dans la population sont très faibles.
Les Français ne pourront pas acheter de masques dans les pharmacies parce que ce n'est pas nécessaire quand on n'est pas malade.
Et soudain, tout a basculé à cause d'un virus mortel.
Le mot d'ordre est clair, restez chez vous.
Et c'était bien parti pour durer.
Le déconfinement, ça n'est pas pour demain matin.
Petit à petit, tout le monde fut atteint.
Il y a des violences policières, si ça vous fait plaisir que je le dise.
L'idiot du village n'a pas été épargné.
La méthode de la prise par le cou, dite de l'étranglement, sera abandonnée.
Ça a même fait revenir l'idiot du village numéro 2 de Barcelone.
C'est pas la République qui lutte contre les musulmans.
Et fait espérer que le poste serait enfin occupé par une femme.
Tout le monde ne mange pas du homard tous les jours, bien souvent on mange plutôt des kebabs.
Et puis au pire de la crise, la maladie a eu raison de lui.
Ce que révèle d'ores et déjà cette pandémie, c'est que la santé gratuite, sans conditions de revenus, ne sont pas des coûts ou des charges, mais des biens précieux, qui doivent être placés en dehors des lois du marché.
La situation était désespérée. « Mais heureusement, maintenant, il va mieux.
Je voulais vous rassurer, je vais bien.
Tout est rentré dans l'ordre.
La revalorisation du SMIC sera de 0,99%, donc c'est la plus forte hausse de pouvoir d'achat depuis les 10 dernières années.
Le boss d'idiot du village a trouvé un candidat à la hauteur.
Alors moi, ça m'a toujours choqué d'entrer dans un hypermarché et de voir qu'il y avait, en arrivant, un rayon de telle cuisine communautaire et de telle autre à côté.
On retourne à la vie normale.
Il y a trop de lits d'hôpitaux, il faut réduire le nombre de lits d'hôpitaux.
Les hôpitaux, on doit continuer à les fusionner.
La vie reprend son cours.
Quand j'entends le mot violence policière, moi je, personnellement, je m'étouffe.
La routine habituelle, quoi.
Il faut faire cette réforme des retraites pour avoir un système de retraite qui soit plus simple, plus juste et plus lisible.
Et Saint-Florilège 2020 va enfin pouvoir être canonisé, parce que c'est pas le moment d'arrêter
notre projet
en si bon chemin. Aujourd'hui, mercredi 30 décembre, le soleil s'est levé uniquement par bienfaisance et par respect pour l'ouvrier. Il s'est couché contre un cajou de pommes pas mûres, 4 choux-fleurs et une tartine de confiture. Et accessoirement, c'est l'heure de le mettre sur le saucisse pois chiche de Radio Campus, le campusville.com et le DAB+.
C'est ça mon programme politique. Oui, élu par le FN, je remercie Marine Le Pen. On se rend service entre bourgeois, ou chez les riches, on est comme ça. Maintenant que je suis ton président, président, président. Oui, du con, oui, du gland, oui, du gland, oui, du gland. Va falloir entrer dans le rang, dans le rang, dans le rang. Tu finiras au mitard, une balle inconçue, pose-toi. La France en marche et marche ou crève, marche ou crève, marche ou crève. La France en marche et marche ou crève, marche ou crève, marche ou crève. La France en marche, marche ou crève, marche ou crève, marche ou crève. La France en marche, marche ou crève, marche ou crève, marche ou crève. Les petits, on va te faire une vie d'enfer. Toi le prolo, le fonctionnaire. Mélenchon au mitard, la France insoumise au placard. On m'appelle Macron le banquier, ma devise est TTC. Maintenant que je suis ton président, président, président. Va falloir entrer dans le rang, dans le rang, dans le rang. Maintenant que je suis ton président, président, président. Va falloir serrer les fesses, ou bien je t'envoie les CRS. La France en marche, marche ou crève, marche ou crève, marche ou crève. La France en marche, marche ou crève, marche ou crève, marche ou crève. La France en marche, marche ou crève, marche ou crève, marche ou crève. La France en marche, marche ou crève, marche ou crève, marche ou crève.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans l'heure des pronos, hein, vous me connaissez Pascal Prono, l'heure des pronos, l'émission, vous connaissez le principe, nous allons débattre de sujets divers autour du foot, hein, on ne connaît pas mieux les sujets que vous, mais nous on est payés, c'est vraiment la différence. On va notamment parler de Lille-Lorient, la prochaine affiche, Et j'ai avec moi des invités. Tout d'abord à ma droite, j'ai Michel Sindou, vous êtes donc Lillois, vous êtes chef d'entreprise, grosse entreprise du CAC 40 et accessoirement actionnaire minoritaire du LOSC.
Bonjour Pascal, merci de m'avoir invité.
Merci d'être venu. Et à ma gauche, donc j'ai non, c'est Jérôme Leroy-Merlu. Jérôme Leroy-Merlu, donc vous êtes pêcheur, je vois, donc en gros, voilà, syndicaliste de gauche, gilet jaune, casse-couille, quoi.
Alors, gilet orange, parce que je suis Merlu.
Oui, non, mais attendez. Alors, par contre, tout de suite, on va mettre les choses au point. Il ne faut pas couper la parole. Non, parce que c'est insupportable. Hein, je veux bien qu'on débatte, ouais. Mais vous respectez les gens. On vous connaît. Il faut arrêter de faire peur aux gens. Vous jouez avec la peur des gens. On n'en peut plus. C'est insupportable. Aujourd'hui, on n'a pas besoin de ça. Le foot va mal. Les stades sont vides. Il y a des cas de Covid dans tous les clubs. Il y a des blessés. Il y a des indisponibilités. Il y a des clubs en faillite. On est au bord du gouffre. On n'a plus de clubs en Coupe d'Europe qui sont respectables. On est en train de crever. Et vous jouez avec la peur des gens. Vous êtes anxiogène.
C'est vous qui êtes anxiogène là.
C'est moi qui suis anxiogène? Non, mais vous. Mais dans quelle réalité vous vivez? Dans quelle réalité vous vivez? C'est insupportable. Je vais vous dire un truc. C'est insupportable. Arrête. Non, mais. Arrêtez! Parce qu'à un moment donné, les gens ne pourront plus vous supporter. Voilà. Je voudrais aussi présenter notre troisième invité, Lionel Messia, bonjour.
Bonjour
Lionel.
Pascal, bonjour.
Vous êtes, très connu, on ne vous présente plus, footopolitologue, et notamment votre dernier ouvrage, un pamphlet, qui s'appelle « L'influence de l'islam dans le 4-4-2 ».
Exactement.
Voilà. Donc, j'aimerais avoir votre avis sur ce fameux Lille-Lorient.
Choc.
C'est un choc.
Alors,
c'est un choc.
Vous ne croyez pas, c'est bien dire. C'est surtout ce match, le choc des civilisations. Nous avons l'Orient en Ligue 1.
Oui.
Voilà. Moi, je préférais l'Occident en Ligue 1. Nous sommes en France, monsieur. Ce n'est pas normal, ça. Alors, monsieur, avec sa tête de chalutier, il arrive. Ouais,
non, mais pardon, mais il a raison. Mais vous niez la réalité. Il a raison.
Si vous me le permettez.
Oui, mais je vous le permets, bien sûr.
C'est évidemment très difficile en Ligue 1 en 2020 de recruter des joueurs qui soient des catholiques intra-européens.
C'est très difficile, c'est une réalité.
Justement.
Vous caricaturez.
Justement, Pascal. Si je peux me permettre. Dans votre équipe, vous avez deux attaquants turcs. C'est ça. Comment ils s'appellent?
Yılmaz et Yazici.
Bien sûr.
De mieux en mieux. Alors, Yılmaz et Yazici, ils vont faire quoi face à Fabien Lemoine dans l'équipe du chalutier, là? Fabien Lemoine qui est milieu de terrain.
Attends, laissez-le finir.
Laissez-moi finir.
Laissez-le terminer.
Fabien Lemoine qui est milieu de terrain de l'Orienté. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va se prendre un tacle à la gorge par vos attaquants turcs. Si, parce qu'ils ont vu le moine, ils ont vu le prêtre et le curé. Déjà, ils vont faire ça avec le moine, on l'a hadin. Bien sûr qu'ils vont faire ça. Et encore un attentat. Et bah, continuez comme ça.
Mais malheureusement, il a raison.
Si vous permettez, Pascal, c'est très difficile aujourd'hui en France, en 2020, de recruter des défenseurs centraux qui ne viennent pas d'Afrique.
Mais pardon. Mais sortez de chez vous. Vous ne sortez pas de chez vous. Écoutez, vous savez quoi? Je vais vous dire une chose. On va parler honnêtement. Moi, je prends ma voiture de temps en temps. On voit des Africains en banlieue.
Il n'y a que de ça.
Excusez-moi, si vous permettez.
Mais bien sûr.
Il y a une réalité, Pascal. C'est qu'un Africain de banlieue coûte 10 fois plus cher qu'un Africain du Togo ou du Mali. C'est une réalité. Mais quand j'achète un Africain 1 million de francs CFA, et je le revends 3 ans plus tard avec ses pieds carrés à un club anglais pour 20 millions d'euros.
On ne parle pas de football.
Non, mais attends, excusez-moi. Alors, par contre, j'aimerais que. Alors, on va falloir établir les règles. On n'est pas à la crier, c'est pas chacun hurle, c'est pas la fête. D'accord? Alors, vous faites ce que vous voulez à la fête de l'UMA, mais ici, c'est mon plateau, on respecte les gens. Pascal, alors, s'il vous plaît, laissez finir Lionel Messia.
Je vous remercie, Pascal. Je n'ai pas encore parlé.
Oui.
Justement, le problème, vous l'avez souligné, vous êtes complice de Daesh. Pourquoi? Parce qu'avec le mercato, on ouvre les frontières, vous faites venir des joueurs d'Afrique. Oui. Qu'est-ce qui se passe, les djihadistes? Il met un short, il met des protège-tibias, il met la grenade dans la couscoussière, il vient jouer et boum, badaboum.
Mais n'importe quoi.
Mais attendez, ne jouez pas sur les mots. Mais c'est une image, la couscoussière, il aurait pu dire un plat à tagine. Vous jouez sur les mots.
C'est une réalité. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que c'est très difficile de recruter des joueurs ou des défenseurs centraux qui font 1m90 et 85 kg, qui soient bien bâtis, si on ne va pas les acheter directement.
Attendez,
vous êtes complice de Daesh.
Pardon, j'aimerais que tout le monde ait la parole. Lionel Messia.
Voilà, je pense qu'il faut revenir aussi au sujet parce que là on s'égare et là on est complètement
hystérisé.
Le problème dans ce pays et en Ligue 1, c'est qu'il y a trop d'Arabes.
Si vous ne laissez pas les gens développer, on ne peut pas savoir ce qu'ils disent.
Merci Pascal.
Il y a trop d'Arabes.
Ce matin, un exemple concret. Vous êtes venu comment au bureau, Pascal?
Je suis venu en Uber.
Moi aussi. Votre chauffeur Uber, il s'appelait comment?
Il s'appelait Ibrahim.
Il s'appelait pas Uber. jusqu'à preuve du contraire, le jour où dans ce pays, les chauffeurs Uber, ils s'appelleront pas Uber, ils s'appelleront Ibrahim ou Mourad, comme le mien, et en plus, ils feront la gueule alors qu'ils sont en Mercedes. J'ai déjà vu quelqu'un qui fait la gueule en Mercedes, tu fais la gueule quand t'as la 404 et le scooter volé sur le toit comme ils faisaient leurs parents. Mais respectez le drapeau. Wallah Aline, aujourd'hui, il pisse dessus. C'est pas vrai, Pascal?
Non, mais pardon, il a raison.
Si vous me permettez, il y a une réalité aujourd'hui, c'est que dans une France telle que la nôtre en 2020, c'est impossible de recruter un chauffeur de taxi dans une belle banlieue à Neuilly-Saint-James ou à
Châtillon. Mais c'est des clichés, ça.
Trouver un chauffeur de taxi qui s'appelle Charles Enguerrand ou Tancred, c'est très difficile.
Mais attendez, excusez-moi. Entre Charles-Henri Tancrède et Mourad, il y a un juste milieu. Il y a Carlos. Il y a Mario.
Jean-Louis.
Peut-être pas Jean-Louis. Bon, écoutez, on arrive au bout de la première partie de l'émission. Tout le monde s'est exprimé.
Bien sûr.
Voilà. En deuxième partie de l'émission, nous parlerons... on vous garde, hein, vous restez, évidemment. On garde les mêmes. On parlera d'un tout autre sujet, puisqu'on parlera des achats de Noël par les footballeurs pour leurs enfants. Alors, Hippoglouton ou Docteur Maboul?
Ce sera plutôt Docteur Kaboul, vu l'époque. Excusez-moi, Pascal, de faire un petit peu d'humour.
Allez, c'est parti. Deuxième version. Bon, allez, on va arrêter avec ce truc-là. Je te jure, j'en peux plus. Ah, putain, ça me dégoûte. Ah, putain, ça me rend malade. Bon, par contre, vous vous éloignez de votre écran, hein, puisque, comme vous le savez, le virus traverse aussi Internet. J'ai l'impression qu'on devient tous fous avec cette histoire de virus qui bute surtout des grabataires qui étaient déjà en train de mourir d'autre chose. Du coup, nous, pour pas le choper, on se met un bout de papier sur le nez qui nous protège de tout. Bon, à part des virus, il paraît qu'il faut se méfier, ce machin-là est asymptomatique. Il se balade sans qu'on puisse le voir, un peu comme la Vierge. On s'en fout d'enfiler le masque si ça peut épargner des vieux. Mais tu vois pas que ces putains de vieux, ils sont tous en train de s'étouffer dedans. À force de toujours vouloir éviter les risques, bientôt il faudra une dérogation pour ouvrir un paquet de chips. Alors vous les beaux costards qui décidez de notre sort, ne nous laissez pas comme ça, ça fait trop peur, faites un effort. Manipulez-nous mieux. Prenez nos 5 balles d'APL pour vous offrir des cocktails. Mais quand vous niquez l'économie, faites-nous croire que vous sauvez des vies. Manipulez-nous mieux. Trafiquez les résultats de la Nivokin si vous voulez. Mais putain, juste au moins une fois, faites-le bien sans vous faire choper. Ben oui, les gestes barrières, ça fonctionne vu qu'aujourd'hui, plus personne meurt du Covid. Aujourd'hui, on se suicide. Y'a ceux qui croient qu'après le vaccin, tout redeviendra comme avant. Et puis t'as ceux qui n'en sont pas sûrs. Ça s'appelle des complotistes. Manipulez-nous mieux. On voit bien que vous faites pas uniquement des trucs honnêtes, mais faites-nous croire qu'une dernière fois vous tentez de sauver la planète. On est quand même quelques milliards à se retrouver dans le pétrin. Clairement, on sait pas trop ce qu'on va bouffer demain matin. En plus, on s'engueule tous vu qu'on croit pas les mêmes fake news. Et c'est toujours ceux qui gueulent le plus qui en savent le moins.
C'est l'heure de le mettre sur le saucisse pois chiche de Radio Campus, comme tous les mercredis à cette heure-ci ou à peu près. Et ce soir, nous vous proposons la suite de l'entretien avec Annie Lacroiry à propos de son livre « Scission syndicale, réformisme et impérialisme dominant » paru aux éditions Delga.
Radio Campus.
Je n'accepterai pas votre méthode qui vise à empêcher la clarté pour l'auditeur.
106,6.
Quand on regarde un peu le développement de l'histoire, on se dit, nom d'ancien quand même.
Annie Lacroiry.
Entre 18 et 39... Donc, entre les deux guerres, hein, puisque le délai était rapide. Bon, les conditions du mouvement ouvrier sont extrêmement difficiles. Il y a une situation terrible. Hein. Et en France, il y a quand même 36. Il s'est passé 20 ans.
Donc 15 ans de scission avérée, on va dire.
Et alors d'impuissance
et oui.
quasi totale, hein, jusqu'en 34. Bon, comment est-ce que... On arrive quand même à surmonter, hein, dans des conditions vraiment extrêmement difficiles, avec la perspective très nette d'un prochain conflit mondial, etc. Comment est-ce que, malgré des difficultés considérables, on arrive encore, je dirais, en 68, à ce que la classe ouvrière remporte des victoires? Et pourquoi, comment, depuis... disons, les lendemains de 1968, le mouvement ouvrier ne rencontre qu'échec, fracture, bien que les fractures aient été antérieures, mais alors fractures avec des effets mortels, et qu'on aboutisse à une situation d'impuissance tellement grande aujourd'hui, d'ailleurs qu'il faut l'éclairer, parce que l'histoire, ça a une mission scientifique, mais en l'occurrence, ça a une mission civique et politique, c'est-à-dire comment faire en sorte que les gens comprennent que ce n'est pas parce que ça a duré 30 ans ou 40 ans que c'est définitif. Et par conséquent, il faut mettre un nom sur tous les facteurs de cette impuissance. Il faut montrer comment on est passé d'une situation, celle que je décris, où les travailleurs, les représentants des travailleurs, qui étaient travailleurs eux-mêmes, les travailleurs les plus combatifs, avaient été en mesure de mener une très grande quantité de salariés vers les succès, à une situation où les échecs s'accumulent. Voilà. Voilà comment, au fond, d'un côté, influence étrangère avant la Deuxième Guerre mondiale, de l'autre côté, c'est l'essentiel du livre, influence américaine au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, comment finalement, au terme d'une Deuxième Guerre mondiale, qui sur le plan militaire a été incontestablement gagnée par l'armée rouge. Ça ne fait aucun doute. Hein. Ça ne fait de doute que quand on regarde la télé et qu'on lit la presse.
Ben oui.
Et quand on fait de l'histoire, ça ne fait aucun doute. Comment est-ce qu'on est passé d'une situation où les forces du changement, les forces que mobilisait Lénine dès 1914-1916, comment ces forces-là, que les lendemains de la guerre, des deux guerres, pouvaient... mettait à l'avant-garde et dont on pouvait penser qu'elle l'emporterait, comment se fait-il qu'elle ne l'ait pas emportée? Et finalement, qu'est-ce qu'il faut faire pour sortir de cette situation que Lénine décrivait en 1916?
Oui.
Nous sommes dans une situation guerre générale exclue. Pour l'heure, nous sommes dans une situation au moins aussi effrayante du point de vue de la crise que celle que décrivait Lénine entre la fin du 19e et la guerre mondiale, et voilà, les choses sont bloquées. Qu'est-ce que c'est que ces blocages? Comment est-ce qu'on est arrivé à un déblocage à certains moments? Et finalement, comment est-ce que l'histoire permet d'affronter cette situation qui peut sembler désespérante? Voilà, voilà je dirais, d'abord le sens de l'ouvrage. Après, quand on entre dans le détail, c'est pas compliqué. Si on n'avait pas les sources, personne ne le croirait. Tellement c'est gros.
Ah bah, de toute façon, ça c'est pour le coup, il faut quand même le rappeler toujours, hein, c'est malheureux d'ailleurs de l'expliciter de manière aussi vraiment forte, si j'ose dire, c'est quand même le béaba du métier d'historien, que d'aller consulter, travailler, vraiment scruter minutieusement les sources, qui malheureusement est de moins en moins le cas, et quand je dis de moins en moins le cas, c'est dans des proportions d'ailleurs effrayantes, hein, clairement le dire. Alors, c'est très important ce que tu viens de dire dans cette réponse qui est très complète, parce que effectivement tu montres le lien qui existe entre, d'une part, bon, bien entendu, les luttes intérieures en France entre le syndicaliste qui d'ailleurs se retrouve en plusieurs, qui se divise finalement en plusieurs organisations, et puis d'autre part le patronat qui lui sait s'unir parfaitement, et puis d'autre part, a dit, la situation intérieure est liée à la situation extérieure. D'ailleurs, il faut signaler que dans la table des matières, tu évoques un certain Irving Brown. Irving Brown qui...
C'est la vedette. Hein.
Ah, bah lui, et a raison, puisqu'il avait déjà officié en Italie, d'ailleurs. Et, bon, il officie en France. Enfin, bon, c'est...
Il officie partout.
Ah voilà, exactement.
C'est compliqué. L'AFF, voilà. Ici, partout. Et d'ailleurs, je veux souligner, parce que c'est une question importante. Pourquoi on ne sait pas? Parce que c'est quand même une question importante. Pourquoi ne le sait-on pas? Alors qu'on a les moyens de le savoir et que, malheureusement, je dirais, pour une toute petite minorité, il est possible de savoir et depuis longtemps. Parce que la situation, l'OPA qu'a lancé l'impérialisme américain sur le mouvement syndical, c'est quelque chose qui est connu depuis les années 60 ou 70, voire la fin des années 50. Bien sûr, elle a été mieux connue, la situation a été mieux connue au fil des années. Ce que je voudrais dire tout de suite, c'est pourquoi on ne le sait particulièrement pas dans un pays comme la France. On n'est pas tout seul, hein. L'Occident, le si bel Occident partisan de la grande liberté, on n'est pas tout seul. Mais on est quand même assez spectaculaire. Parce que dans l'historiographie anglophone, il y a eu deux courants à partir des années, disons, 60-70. Il y a eu... parce que c'est une caractéristique d'ailleurs de l'histoire anglophone, c'est qu'un certain nombre d'historiens sont des historiens liés au mouvement ouvrier. C'est-à-dire qu'ils font l'histoire, ils ont été historiens de syndicats, ce qui n'existait pas sous cette forme chez nous.
Oui.
Ça n'existe pas chez nous. C'est-à-dire qu'il y avait des historiens américains qui travaillaient pour l'AFL, pour le CIO, hein, c'est-à-dire les deux syndicats américains qui se sont réorganisés en 1955 pour former ce qui s'est appelé l'AFL-CIO et que de mauvais esprits bien informés appelaient l'AFL-CIA.
CIA, oui, ça ne pouvait que...
Mon ouvrage contribue à montrer pourquoi. Donc, il y avait des historiens. Et très souvent, ces historiens étaient des gens qui adoraient la scission. Ils étaient très contents. Ils étaient complètement sur les positions de leur impérialisme national. Ils trouvaient que la victoire américaine était très bien, qu'elle avait conquis plein de marchés, que l'OPA sur le syndicalisme était une excellente affaire, etc. Donc, ils racontaient tout très contents. Bon, ça a fait une partie de l'historiographie. Et puis, il y en a une autre. Qui faisait partie d'un courant plus critique. Je pense d'ailleurs à un Anglais, dont personne ne connaît les travaux. Enfin, oui. Bon, c'est-à-dire Anthony Carlyle, qui a fait deux bouquins extraordinaires, un paru en 1987, pas traduit, qui s'appelle Le mouvement ouvrier européen et le plan Marshall. European Labour and the Marshall Plan. Lui, il est tourné sur le plan Marshall. Comment le plan Marshall conquiert le syndicalisme européen de la zone américaine, parce qu'il ne s'occupe que de la zone américaine. Et un autre bouquin qui a été publié en 2018, qui à mon avis n'a aucune chance d'être traduit, et qui s'appelle, si on le traduisait en français, La guerre froide du syndicalisme américain.
Ouais.
Et qui est extraordinaire parce que il est de plus en plus occidental, hein, c'est-à-dire que bon, quand même, les temps sont durs. Mais il est, comme beaucoup d'historiens anglophones, il sert des sources. Donc on peut dire que c'est le mouvement libre, tout ça. Qu'est-ce qu'on y découvre? Que Irving Brown a été un émissaire du département d'État et de la CIA. Qu'il a servi dès la Première Guerre mondiale, sans parler d'avant, je ne vais pas remonter, mais il était déjà bien avancé dans le service au patronat et à l'État américain dans les années 30. Comment Irving Brown, l'AFL, l'American Federation of Labor, qui considérait à peu près que tout mouvement syndical européen était constitué d'affreux rouges, comment ce mouvement syndical a délégué en Europe, des gens qui ont je suis désolée du mot, mais j'ai toujours fait de l'histoire en appelant un chat un chat, et oui. Il s'appelle un chat un chat. Comment le mouvement syndical en Europe a été acheté, non seulement évidemment par le patronat, ce qui était une vieille affaire, mais par l'impérialisme américain. C'est tellement monstrueux que, heureusement, les historiens anglophones ont des sources. On ne pourrait pas les croire s'ils ne nous avançaient pas les sources. Il y a, je dois dire d'ailleurs, dans le bouquin de Carew de 2018, il y a un descriptif de l'achat. Il n'est pas dans mon livre. Hein. Moi, j'ai parlé de l'achat des Français, de l'achat des Anglais et de l'achat des Allemands. C'est déjà pas mal.
Ça fait beaucoup de monde déjà.
Voilà, ça fait déjà beaucoup de monde. Mais tout le monde est passé à la même moulinette.
Hein. Ah oui, oh, ça je...
Et il y a un descriptif inénarrable, c'est sinistre, mais bon, ça finirait par être drôle, de l'achat des syndicats norvégiens avec les dollars donnés pour acheter des voitures américaines échangées à cours très élevé du dollar en Norvège. On se frotte les yeux. Hein. On se frotte, on se dit, mais c'est pas possible. Eh bien, si, c'est possible. C'est possible, c'est-à-dire que quand les forces patronales ont le vent en poupe et les forces ouvrières ne l'ont pas, ça donne un spectacle presque incroyable à examiner. Donc, Carew, c'était quelqu'un qui était plutôt hostile quand même. Hein,
en tout oui. Cas,
voilà. Donc, ils nous ont tout dit. Ah ben, on me dira, mais pourquoi on ne le sait pas en France ? Eh ben, on ne le sait pas pour les mêmes raisons qu'en France, on ne peut pas aborder ceci ou cela, parce que de toute façon, c'est le tutorat de Sciences Po qui nous a dirigé toute l'histoire contemporaine française. Malheureusement, c'est pas le thème aujourd'hui, mais c'est quand même quelque chose qui vient de très loin, puisque c'est quand même quelque chose qui court, là encore, depuis l'entre-deux-guerres. Comment on a conquis, finalement, on a conquis l'impérialisme américain au service, je dirais, objectif du patronat français et de l'État français, comme d'ailleurs de tous les États et des patronats des pays conquis. L'impérialisme américain leur a rendu un très fier service, bien qu'il les ait par ailleurs aussi gênés, non seulement en conquérant le syndicalisme, mais évidemment en conquérant la culture, je dirais en conquérant tout.
Oui, oui. Donc,
pourquoi est-ce qu'on ne parle pas de ça en France ? On ne parle pas de ça en France parce que en parler, c'est mettre l'accent sur le fait que la France est un pays colonisé. Mais je pèse bien. Je ne dis pas ça pour faire spectaculaire. C'est un pays dans lequel on a des forces étrangères qui contrôlent nos élites. Pourquoi ? Pour une raison très simple qui est exposée par un flic des renseignements généraux de province en 1943. En 1943, il écrit la chose suivante. Il n'y a jamais rien de mieux que les policiers pour expliquer les enjeux. Il faut le dire. Il faut le dire. Les policiers qui savent tenir une plume et qui sont chargés de faire du renseignement, ils font leur boulot. Hein. Il faut se rappeler quand même que les policiers ne sont pas seulement chargés de casser la tête, d'arracher les yeux d'arracher les mains, mais qu'ils font leur travail comme n'importe quel fonctionnaire ou haut fonctionnaire. Hein. Ils font un travail de renseignement. Et ils peuvent être ultra-réactionnaires, ils peuvent servir le pire État, ils peuvent servir Vichy, ils peuvent servir l'ennemi envahisseur. Ils ont une lucidité remarquable. Il y a un flic en 1943 qui, dans une ville de province, dit la chose suivante. La bourgeoisie s'inquiète parce qu'en 1943, il y a eu Stalingrad, tout ça. Les ouvriers ne sont pas contents. Ils ne le disent pas encore, enfin, ils ne l'expriment pas encore beaucoup, mais ils vont l'exprimer, c'est clair. Et il dit la bourgeoisie ne compte plus que sur le soldat, il y avait encore l'anglais à l'époque, que sur le soldat anglais et sur le soldat américain pour sauver son coffre-fort, parce que le choix allemand, évidemment, est devenu obsolète dans la mesure où l'Allemagne va se prendre la pâtée du fait de la très bonne tenue de l'armée rouge. C'est un policier qui dit ça, qui dit qu'ils dépendent tellement de l'étranger que, bien entendu, ils ne peuvent pas envisager quoi que ce soit d'autre que cette dépendance envers l'étranger. Et il faut le dire, on peut se dire, bah oui, on comprend dans les milieux, dans les élites de l'argent, dans les élites du pouvoir, dans les couches intellectuelles, bref, tous les gens qui visiblement nous dominent, on comprend bien là que cette dépendance à l'égard de l'impérialisme américain soit impérieuse. Mais comment se fait-il que cette dépendance soit aussi impérieuse pour une fraction considérable du mouvement ouvrier, et en particulier, puisqu'on parle ici de syndicalisme, pour la fraction syndicale? Il faut en revenir à toutes les questions posées depuis la fin du 19e, hein, c'est-à-dire depuis que, comme le disait Engels dans sa remarquable préface à l'édition allemande de La condition de la classe laborieuse en Angleterre. Voilà, il disait, ben voilà, le problème est le suivant. En 1845, où je croyais la révolution proche, je croyais le mouvement ouvrier britannique révolutionnaire, je me suis trompé. Pourquoi ? Parce que la direction du mouvement révolutionnaire a été conquise par le très haut patronat qui lui a offert des prébendes, qui l'a séduite, cette direction. Et dit-il, bah, la masse, le sort de la masse des ouvriers anglais n'a pas changé, mais le sort de cette petite fraction qu'il appelait déjà l'aristocratie de la classe ouvrière,
oui,
bien changé, de sorte que désormais ils adorent leur patron. L'histoire que je décris, c'est l'histoire d'une couche de dirigeants syndicaux qui adorent les liens avantageux qu'ils tirent de leur position particulière au-dessus des travailleurs qu'ils sont supposés représenter. Alors évidemment, ça fait très complotiste. Oh là là, mon Dieu. Ben oui, mais les sources étant ce qu'elles sont, on est bien obligé de constater que les sources ont confirmé l'analyse d'Engels de 1885-92 et cette analyse que Lénine a reprise. Voilà, on est dans cette situation dont on n'est pas sorti depuis 1945 et qui prend un tour très aigu maintenant, tout simplement parce que, à la différence de ce que disait un très célèbre acquis, une très grande victoire personnelle de Irving Brown, Bergeron,
parce que oui. André Bergeron.
Ça a été une conquête. Il était dans le livre de Belfort et il a fait partie des jeunes gens ambitieux qui ont été conquis, je dirais, contre avantages matériels et de carrière considérable par Irving Brown personnellement.
Oui.
Bergeron qui disait il y a quelques décennies qu'il y avait du grain à moudre, mais il n'y en a plus.
Ah non, ça.
Et on peut nous intoxiquer tous les jours à la télévision et dans la grande presse sur les horreurs du communisme et sur les bontés, sur les grandeurs de la société de liberté. On ne peut pas faire que la population ne s'interroge pas sur cette absence de grain à moudre. Voilà. Et donc tout ça pose la question, bien entendu, de ce qu'est un syndicat. De ce qu'est un syndicat de salariés, de dépendants, de gens qui ne vivent que de leur salaire, par rapport à ceux qui sont en mesure d'exercer sur eux une influence. C'est ça la question que je pose. C'est-à-dire comment est-ce que les classes dirigeantes françaises, et avec cette insistance sur les facteurs étrangers allemande ou américaine, comment est-ce que ils sont entrés, comme le disait Engels à propos du mouvement ouvrier anglais en 1885 ou 92, comment est-ce qu'ils ont conquis une partie dirigeante essentielle de ce mouvement syndical. Ce que je dis, bien entendu, ce n'est pas l'objet de mon livre.
Non, non.
Ce que je dis vaut aussi pour les aspects politiques. Parce que la question qui se pose sur le plan syndical, c'est une question qui se pose, évidemment, du point de vue des forces politiques. Hein? Quand le populaire a pu être, qui était en déconfiture en 1924, a été remonté en 1926, a été remonté grâce à un consortium de grands capitalistes. Mais on ne l'a pas raconté aux lecteurs du populaire.
Journal Le Populaire de l'époque, effectivement.
Voilà, d'une SFIO qui avait pourtant à l'époque une véritable base de masse, hein, parce que il y avait pas, c'était pas la SFI, enfin le Parti Socialiste, qui d'ailleurs a eu longtemps en France une base de masse, hein, même si ça n'était plus parmi les ouvriers ou les employés modestes.
Bien sûr.
La SFIO, elle a eu une base de masse dans une fraction de la classe ouvrière et chez tous les fonds et dans une fraction écrasante des fonctionnaires ou des employés, hein, bah, elle dépendait déjà du patronat. La question, en fait, la question que je pose là, elle se pose depuis la fin du 19e siècle. Et on a, avec les États-Unis triomphants, une situation, vu la puissance des États-Unis, je le répète, qu'on ne peut même pas imaginer si on ne fouille pas dans ces dossiers qu'il est absolument impossible de sonder si on veut faire carrière à l'université. Je le dis parce qu'il serait incompréhensible sinon que sur des fonds qui sont quand même très ouverts depuis longtemps. Moi, j'ai fait ma thèse, j'ai trouvé une grosse partie de mon substrat d'archives sur le syndicalisme, je dirais, dans les années 70. Après, j'ai continué, les années suivantes. Mais c'était déjà disponible. On ne pouvait pas en parler, puisqu'il paraissait que Force ouvrière avait été fondée parce que il y avait une telle infiltration, un tel noyautage, c'était le même terme que dans les années 30, un tel noyautage communiste sur la CGT, dans la CGT, qu'il était impossible à des syndicalistes indépendants de supporter une pareille tutelle, et que c'est pour ça que, à la faveur de très vilaines grèves, très minoritaires, de la fin 1947, eh bien, les malheureux confédérés se seraient résolus à faire scission. C'est la problématique de l'ouvrage Force ouvrière de mon collègue Alain Bergougnou, enfin qui ne doit plus être mon collègue depuis longtemps parce qu'il doit être permanent du Parti Socialiste depuis longtemps.
Ah oui, oui.
Qui jurait ses grands dieux que vraiment, voilà, la question s'était posée en 1947, parce que jusque-là, la SFIO, enfin, le courant confédéré était tout à fait d'accord sur la bataille de la production. Surtout, c'est la dépendance à l'égard du communisme qui avait provoqué la scission. Ah bon ? Ah ben, c'est intéressant. Et la première scission, qui n'en est pas une ?
Non.
Et la deuxième scission, qui n'en est pas une, eh bien, ça, c'est la seule scission, 47-48. C'est la seule scission. Mmh. Et pourquoi y a-t-il cette scission ? C'est une vraie scission. C'est une scission comme le congrès de Tours. Il y a un vote majoritaire. La minorité ne se résout pas au vote majoritaire. Elle n'est pas évincée, hein. Ce qui est la différence à l'égard de ce qu'on appelle indûment la scission de 1921 et indûment la scission de 1939. En 21, Jouot a mis à la porte les unitaires, qui s'appelaient comme ça, un minoritaire de la guerre, qui étaient les unitaires, qui ne voulaient pas quitter le syndicat. Je dirais même que les éléments communistes étaient fermement encouragés à ne pas quitter le syndicat. C'était la clé de l'existence de la CGT. Hein. La classe ouvrière doit être unie, quelles que soient ses divisions éventuelles politiques. Hein. Bon, donc, non, ils ne voulaient pas. Mais comme ils étaient en train de devenir majoritaires et que Jouot ne voulait pas reconnaître cette majorité acquise en 21, alors il les a évincés avec l'aide de l'étranger, c'est-à-dire de l'Internationale syndicale d'Amsterdam, ouais, laquelle allait faire la vraie scission, celle de 47-48. Et toutes les scissions d'Europe occidentale ou casse de syndicats d'Europe occidentale.
L'homme veut manger du pain, oui. Il veut pouvoir manger tous les jours du pain et pas de mots enflants, du pain et pas de discours. Marchons au pain, marchons au pain, camarades.
Première scission qui n'en est pas une, une deuxième scission qui n'en est pas une, dans une conjoncture pas différente. C'est-à-dire que de 35 à 37, les unitaires, l'ex-CGTU, Confédération Générale Unitaire, constituée en 1923, parce que quand vous êtes fichu à la porte d'un syndicat, qu'est-ce que vous faites? Vous êtes bien obligé de reconstituer un syndicat.
De vous réorganiser, oui.
Voilà. Et oui. Les minoritaires en 23, ils ont constitué un syndicat. Et ces minoritaires, à la faveur des luttes de 36-37, ils ont conquis la majorité. Voilà une idée. Mais ils l'ont vraiment conquise.
Oui.
On a les sources pour l'établir.
Hein, bien sûr.
Et ben, comme ils l'ont conquise et que ça ne plaisait pas aux ex-majoritaires, aidés du patronat, et à l'époque pas mal de l'Allemagne quand même. Oui. Lire, outre ce que j'ai établi dans mes ouvrages sur les années 30, et en particulier à cet égard Dominique Avichy, lire Marc Bloch, qui le montre bien, en liaison avec le patronat, en liaison avec l'État, en liaison avec cette Allemagne que le patronat aimait tant dans les années 30, ils se sont débarrassés des gêneurs. Demandez aujourd'hui à quelqu'un, quand il a au moins un peu de culture syndicale, hein, pourquoi ça s'est fait? Ben, vous savez bien pourquoi ça s'est fait. À cause du pacte germano-soviétique.
Le fameux.
1939. Mais si on me lit, y compris dans cet ouvrage, puisque je rappelle la problématique de Marc Bloch, eh bien, on se rend compte que ça ne s'est pas du tout passé comme ça. Que le patronat a organisé la scission, qu'il a corrompu les confédérés pour organiser la scission, et que ça a été grandiose. Je voudrais rappeler une chose que je rappelle là d'ailleurs. Faut l'avoir en tête, parce que qui le sait? Nous avons eu en novembre, le 9 novembre 1940, un décret signé de celui qui aurait dû être le secrétaire général de la CGT à la succession de Jour, René Belin, qu'on avait collé théorique ministre du Travail et de la Production industrielle dans le cabinet de juillet, du 13 juillet de Laval, du 13 juillet 1940. Comme disait Abetz, alors je rappelle qui est Abetz, hein. Abetz, c'est l'émissaire d'Hitler et de Ribbentrop qui a pourri nos élites syndicales, politiques, patronales, parce que c'était l'idole du patronat 33 et 39 avant de revenir comme théorique ambassadeur à Paris en juin 1940. Donc, on s'est trouvé dans cette période avec un Abetz tout à fait lucide qui disait, en commentant le cabinet Laval de juillet 1940, ils ont collé Belin comme ministre du Travail et de la production industrielle pour montrer que le cabinet Pétain était un cabinet favorable aux ouvriers. Je dois dire d'ailleurs, c'est intéressant. C'est une incidente, elle n'est pas dans mon livre, mais quand même, je la raconte, que ça a même beaucoup contrarié notre Saint-Père de l'Europe, notre cher Robert Schuman, qui était déjà dans le cabinet de Reynaud puis de Pétain avant juillet 1940 et qui comptait bien être dans le cabinet Laval et pas de Pau, étant donné qu'il était un officiel porte-parole du comité des forges. Il a été considéré comme plus diplomatique de ne pas le mettre dans cette fournée. Voilà d'ailleurs comment l'heureux Robert Schuman a échappé à la station plus longue de ministre de Vichy que j'éclaire notamment dans la non-épuration. Tout ça pour dire que la scission, c'est une scission qui, comme toutes les scissions, a eu l'appui du patronat français, l'appui de l'État français, l'appui de forces étrangères, et c'est vrai dans toutes les scissions, fausses ou vraies, du XXe siècle. Mais dans celle de 1947-48, c'est un succès d'autant plus éclatant que les États-Unis sont, comme Carew l'a montré, comme d'autres historiens l'ont montré, comme je l'ai montré, que les États-Unis ont été en mesure de faire ça en France et dans toute l'Europe occidentale. Là où il y avait des syndicalismes de combat, il y avait deux endroits. Des syndicalismes où le mouvement communiste, qui était très lié au mouvement communiste, parce qu'il y avait un parti communiste fort, ce qui était, je dirais, dans la ligne de l'origine des syndicats. Hein. Il faut quand même se rappeler que le syndicat, c'était l'organisation quotidienne des ouvriers, alors que leur parti était supposé être leur organisation, leur instrument politique. Ça ne se distinguait pas plus que pour le patronat. Est-ce que le patronat, il fait une différence entre les partis qu'il finance je dirais, son organisation syndicale? Naturellement pas. Hein. Je rappelle quand même à tous ceux qui se posent des questions sur l'unité syndicale qu'ils seraient bien inspirés de regarder un peu ce qu'a été l'unité syndicale patronale et de s'interroger sur les raisons pour lesquelles, si le patronat est caractérisé par une remarquable unité, les salariés sont caractérisés par une division permanente. Ça veut dire que se passent des choses dans un système d'exploitation de l'homme par l'homme qui montre que les privilégiés, les détenteurs de capital ne sont pas logés à la même enseigne que ceux qui ne vivent que de leur salaire. Bien, c'est-à-dire que cette puissance américaine, c'est pour ça d'ailleurs que j'avais poussé l'étude au-delà de la France. J'aurais pu faire, mais enfin bon, le livre aurait été plus gros, j'aurais pu étudier le cas italien qui ressemble au cas français.
Encore terriblement, terriblement, avec un parti communiste qui représente un tiers de l'électorat.
Fort, mais il faut le dire d'ailleurs, où la scission a été encore plus dure, parce que ils ont réussi à couper en tranche le syndicalisme, mais ils ont eu plus de mal. Ils n'ont pas pu faire la scission comme ils l'ont fait en France. Ils ont payé tout ce qu'ils ont pu, etc. Ils ont évidemment cassé le mouvement, parce qu'en la matière, le plus important, c'est de casser le mouvement. Et j'ai dit tout à l'heure, donc, deux pays, l'Italie et la France, si objectif de scission. Mais il ne faut pas se tromper, même là où le syndicalisme était un syndicalisme à écrasante majorité social-démocrate réformiste, ils ont cassé le syndicalisme dans la mesure où ils se sont arrangés pour en évincer tous les éléments combatifs. Ça prend toutes les formes possibles. Aux États-Unis même, c'est cette chasse aux sorcières qui rend les progressistes, qui met les progressistes hors la loi et qui fait, qui a d'ailleurs pas toujours été commode, hein, parce que il a fallu attendre jusqu'en 1951 pour virer les dirigeants syndicaux les plus combatifs des États-Unis, c'est-à-dire ceux des syndicats de la mer de Californie en 51. Il a fallu attendre jusqu'en 51. Donc ça s'est fait aux États-Unis, dont le mouvement syndical est paralytique et cataleptique depuis 47, parce que ça, c'est une grande victoire, hein, sauf petites exceptions. Et dans toute l'Europe, là où il n'y avait pas de péril communiste, comme dit l'autre, dans toute l'Europe, ils ont affaibli le syndicalisme de manière effrayante. Et c'est ce que je décris pour la France, pour l'Angleterre, car on sait qu'en Angleterre, on a un parti communiste très faible, mais, et c'est, je dirais, c'est bien éclairé d'ailleurs par les analyses d'Engels et la réflexion des années 90 sur l'échec de la révolution en Angleterre, hein, je rappelle quand même qu'au milieu du 19e siècle, les marxistes peuvent penser, Engels le pense, que la révolution sociale, elle se fera
en Angleterre ou en Allemagne, en tout cas, voilà.
Mais en Allemagne, on n'y pense qu'après. C'est-à-dire quand le capitalisme se développe en Allemagne, on ne peut penser ça qu'à partir des années 70.
Tout à fait.
Hein, tandis qu'avec le mouvement chartiste des années 30 et la crise de 1845-1849, on peut penser que c'est en Angleterre que ça va se
faire. Bien sûr.
Mais en Angleterre étaient demeurées de très grandes traditions de lutte syndicale, qu'on a vu anéantie d'ailleurs à l'époque Thatcher, quand Thatcher a mis à genoux le syndicalisme des mineurs.
Dans les années 80.
Voilà, il a fallu attendre la moitié des années 80 pour réaliser... Pour obtenir la véritable victoire sur la combativité du mouvement ouvrier britannique. Et je dirais d'ailleurs que finalement, le cinéma de Ken Loach, c'est le cinéma de cette après-victoire, c'est-à-dire un cinéma évidemment passionnant, mais désespéré, parce que voilà, on ne peut que pleurer sur l'état calamiteux d'une classe ouvrière sans défense, de salariés sans défense. Eh bien, quand on voit ce qui s'est passé en Angleterre, on est effaré par cette réussite des États-Unis et des éléments réformistes qui se sont appuyés sur les États-Unis et du succès patronal, bien entendu, et du succès de l'État avec un syndicalisme combatif qui a été vraiment cassé. Il a fallu attendre Thatcher pour achever la casse, mais qui a été déjà considérablement cassé. Ne parlons pas de l'Allemagne, alors là, évidemment, le phare de l'avancée. Alors, je ne le traite pas ici, mais il faut savoir que c'est une grande question. En fait, on se trompe maintenant. On a des sources qui permettent de voir qu'il ne s'agissait pas simplement de fiche la trouille à l'ensemble des populations de l'Ouest de la part des États-Unis. Il s'agissait de réaliser l'objectif qui était un objectif affirmé dès la fin du 19e siècle et revendiqué par le secrétaire d'État Hay en 1899 avec son programme de la porte ouverte en Chine, oui. C'est le programme suivant. Notre impérialisme est l'impérialisme le plus puissant du monde. Rien de ce qui existe dans le monde ne peut nous être soustrait. C'est-à-dire qu'on entre dans une situation, et c'est évidemment d'ailleurs un des aspects des deux guerres mondiales, où il y a des impérialismes dominants qui veulent l'hégémonie. Mais comme les États-Unis sont en mesure surtout après la Première Guerre mondiale et encore plus après la Deuxième, de réaliser ou de tenter de réaliser cette hégémonie, ce n'est pas la limite de 45 qu'ils veulent, dont ils ont tout fait d'ailleurs pour qu'elle n'existe à point. Je rappelle que les Américains ont eu l'objectif, l'espoir et l'objectif que l'Union soviétique renoncerait à une zone d'influence. Leur grand ambassadeur à Moscou, 43-46 Harriman, héritier d'une des plus grosses fortunes du capital financier américain, qui a d'ailleurs été ambassadeur chez nous, voilà, lui, il a été ambassadeur partout, il a été ambassadeur spécial du plan Marshall, etc. Il expliquait en mars 44, au département d'État, que ces malheureux soviétiques étaient tellement misérables, tellement accablés par l'état de leur économie vu les souffrances de la guerre, qu'on les aurait, en leur promettant $1 milliard de prêts, je signale, hein, grosso modo et de manière très optimiste, les destructions occasionnées par l'Allemagne en Union soviétique sont de l'ordre de $200 milliards. Un milliard de dollars, disait Harriman, ça suffira, il n'y aura pas de zone d'influence. Les soviétiques étaient un peu gentils et ballots, mais enfin là, quand même, ça ne s'est pas fait tout de suite. Mais l'objectif, ce que j'ai montré d'ailleurs, de fait, sans en avoir tout compris encore, mais ce que j'ai montré dans l'ouvrage Le Vatican, l'Europe et le Reich, c'est que l'objectif, c'était la conquête de toute l'Europe, pas seulement de l'Europe occidentale. Ça n'est pas dans mon livre, mais c'est quand même dans la problématique de mon livre. L'objectif, c'était bien entendu de réaliser cet OPA du syndicalisme ailleurs. Et ça, c'est fait. Solidarność, c'est ça.
Tout à fait. Et d'ailleurs, un ouvrage...
La révolution de velours tchécoslovaque, c'est ça. Et toutes les institutions créées dans la période que j'examine, c'est-à-dire celles où se met en place le programme de l'AFL, qui est très vite le programme de l'AFL-CIO. Le CIO était plus progressiste, mais sa direction adorait l'impérialisme américain, trouvait ça très bien. Pour ses dirigeants, je comprends très bien d'ailleurs, ça leur a valu des postes infiniment plus intéressants que s'ils étaient restés au service de la classe ouvrière. L'objectif de cet OPA syndical, c'était bien entendu un objectif global pour l'ensemble des pays, parce que ce qui nous a été appliqué, ça a été appliqué au syndicalisme du monde, hein. À l'Afrique, à l'Asie, partout. Ah, il y a eu des hicks. Il y a eu des hicks quand même.
Il y a des verrues toujours.
Pas dans mon livre, hein. Vu qu'il y a quand même eu la Chine, dont nous voyons aujourd'hui tout de même que, ma foi, l'évolution a un peu bouleversé quand même le rapport des forces mondiales. Nous le voyons à la faveur de cette pandémie, n'est-ce pas, hein. Mais la réussite a été presque complète, hein. Ouais. Et elle ne s'est pas tenue à la sphère que j'ai analysée dans cet ouvrage. C'est-à-dire une conquête globale. On comprend, le policier de 43 le disait, et le très réactionnaire avocat Maurice Garçon le disait dans son journal de guerre, ils tremblaient tous en disant « mais il faut que les Anglais et les Américains avancent, mon Dieu, surtout éviter que la victoire soviétique… voilà, soit mené jusqu'au bout, hein, et faire en sorte que, quand même, les Soviétiques n'aillent pas trop loin, ce qui s'est fait. Hein, mais faut lire le journal de Garçon, hein. Ils tremblaient tous comme des feuilles. Hein. Ouais. Ça, en 1943, ils ont tous tremblé comme des feuilles. Ça va, ils n'ont pas tremblé longtemps.
Non, il y a eu un sauveur, heureusement.
Voilà, ils ont eu un sauveur. Mais c'est à partir de là que sont fondées toutes les institutions, le projet américain, la liquidation du syndicalisme combatif. Parce que sous couvert de lutte contre le communisme, c'est ça. Hein. Est-ce que les salariés vont être capables de se battre au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale pour arracher une partie du surproduit et le transformer en salaire? C'est ça la question posée.
Hein.
Voilà, c'est uniquement ça la question posée, finalement. Ça s'est fait en large partie au bénéfice de l'impérialisme américain, parce qu'évidemment, il a énormément profité de la situation, enfin de sa position en Europe. Et donc, quand le projet est au jour, parce qu'il est complètement au jour en 1944, hein, comme je le montre, congrès de l'AFL, programme de liquidation du syndicalisme combatif, on y envoie un tel, un tel et un tel, dont Irving Brown, qui arrive à Paris en novembre 1945. Enfin, ils ne sont pas restés inactifs jusque-là. Hein.
Ah non, non, entendu, ils œuvraient depuis l'Italie, etc. Voilà.
De partout, puis en France aussi, l'ambassade s'en occupait, etc.
Ah bah, évidemment.
On contactait qui de droit, on contactait les affaiblis, c'est-à-dire les confédérés, hein, exactement comme l'Allemagne, le patronat et l'État avaient conquis les confédérés affaiblis dans la CGT de 1936-39. Et voilà comment, à partir de là, puisqu'en 1949 est remportée une étape décisive, hein, c'est-à-dire fondation de la Confédération internationale des syndicats libres, puisque ça s'appelle comme ça, toujours.
Dit libre, on devrait dire dit libre.
C'est toujours libre, free, c'est
toujours. Ah bah oui.
Et donc, c'est avec ça qu'on casse la FSM, qu'on a eu le souci de casser avant même qu'elle ne fût portée sur les fonds baptismaux, puisque je rappelle que la FSM, elle est fondée officiellement en septembre 1945, mais que le projet de casse de la FSM en route depuis 1944 est un point important du congrès de l'AFL de l'automne 1944. Et à partir de la Confédération internationale des syndicats libres, qui casse la FSM progressivement, disons de 1949, j'allais dire au départ de la CGT, mais l'essentiel avait été acquis avant. Hein.
Bien sûr.
À partir de 1949, je dirais que la voie est libre et que toutes les institutions syndicales européennes sont les héritières de la situation que je décris dans cette période 39-49 et pour l'essentiel 44-49. Voilà quel est le centre du livre. Je crois que quand on voit ça, on se dit que, aux moyens considérables dont l'impérialisme triomphant a disposé dans sa période de triomphe, succède une période où finalement les moyens sont beaucoup moins considérables. Mais l'effet a été tel et les dernières victoires sont si récentes, parce que les dernières victoires, finalement, c'est celles qui sont engrangées avec la chute du mur et la fin d'URSS, 89-91, ceux qui ne voient pas comment les choses se sont déroulées se disent « c'est cuit ». C'est très intéressant d'ailleurs, parce qu'il faut bien se dire que ce qui s'est passé à l'intérieur des partis communistes de la zone européenne, sujet à l'eurocommunisme, c'est au fond la conséquence, une conséquence de ce qui est un découragement extraordinaire de ceux qui se sont dit « le capitalisme en a pour 200 ans, il faut vivre avec ». C'est ça qui s'est passé.
Complètement.
Entre 89 et 91. Et dont notre situation politique est aujourd'hui l'héritière.
Radio Campus.
Ah, je me disais aussi Staline avec la Ferrari.
106,6.
Mon dernier chapitre sur la manière dont on peut transformer un mouvement affaibli en gros loup-garou qui fait peur aux petits-enfants et qui les empêche de s'endormir, c'est ce que je montre sur la campagne d'Intox sur le Cominform qui s'appelle du Cominform au coup de Prague. Oui. C'est-à-dire que les États-Unis ont réussi, il faut le dire, un coup de génie, hein, et dans toutes les classes dirigeantes d'Europe occidentale, à passer à la moulinette des partis communistes dont la résistance, le rôle considérable dans la résistance avait énormément amélioré la position. Il faut se rappeler qu'il y a eu des ministres communistes, il y a eu un parti fort jusqu'au Danemark. Le parti danois a été remarquable dans la résistance intérieure. Eh bien, comment les États-Unis, avec évidemment les dirigeants respectifs de chacun des pays, ont réussi à transformer ce qui était un mouvement ouvrier affaibli, un communisme affaibli, en loup-garou, on regarde ça Et on se dit non d'un chien, mais ce qu'il nous raconte tous les jours sur l'ours, ça participe de ce cirque. C'est pour ça d'ailleurs que l'histoire est si utile. Comment vous transformez ? C'est-à-dire que pendant qu'ils alertaient les populations sur l'Union soviétique, comme disait l'autre, à deux étapes du Tour de France, ils ricanaient ensemble en disant « ce coup-là, on les a bien nus, ils sont coincés pour un moment ». Je rappelle d'ailleurs que c'est exactement ce qui s'était passé à partir de 19. À partir de l'échec définitif du mouvement ouvrier, du mouvement révolutionnaire en Allemagne, donc ces messieurs en 1919 étaient tranquilles comme Baptiste. Et pourtant, ils nous ont sorti l'ancienne soviétique de 1918, j'allais dire à nos jours.
Mais on peut le dire, mais on peut le dire. D'ailleurs, on le vit tout le temps. C'est « ah bah, dès qu'il y a une manifestation, voilà ».
Ça sert toujours, ça sert encore. Je voudrais rappeler une chose qui est très polémique alors qu'il n'y a pas lieu. Il faut le rappeler parce que c'est une chose essentielle quand même. La question de l'indépendance syndicale ne s'est posée que dans deux pays en Europe, l'Italie et la France. C'est-à-dire deux pays qui ont été en mesure de se fabriquer un parti communiste fort, ou disons un mouvement marxiste. Car quand on regarde l'origine, et on a d'ailleurs une des plus belles supercheries historiques qui est maintenue aujourd'hui, on nous explique que le mouvement syndical, voilà, il a voulu son indépendance des partis politiques en 1906, voilà, au congrès d'Amiens, avec la charte d'Amiens. Soyons raisonnables. L'ensemble de l'Europe à l'époque a des mouvements syndicaux. Ils sont organiquement liés, partis et syndicats. Qui finance ? Qui structure le parti ? Le Trade Union Congress, c'est-à-dire le syndicat anglais. L'ADGB, le syndicat général des travailleurs allemands. C'est pareil en Belgique, c'est pareil aux Pays-Bas, bon, c'est pas la peine que j'insiste, c'est pareil en Scandinavie. Pourquoi en France ou en Italie ? Je vais choisir le cas français. Parce qu'en France se pose la question du guédisme, c'est-à-dire du marxisme. Et qu'il y a un double problème dans le rejet de la dépendance. Il y a le conflit entre les marxistes et les non-marxistes, et les non-marxistes ont été très astucieux. Ils ont lancé la question d'indépendance parce que, voilà, c'était un brûlot entre les marxistes. Mais c'est tout. C'était le fer de lance de la lutte contre les guédistes. Indépendance ? Mais, mon Dieu, la question initiale qui s'était posée, c'était la question du mouvement ouvrier unifié. Il était unifié syndicat et parti, comme le mouvement patronal, qui est unifié. Il est totalement unifié sur le plan syndical. Il est subdivisé. Pourquoi ? Parce que c'est le cœur du patronat. Il n'y a pas besoin de faire semblant d'avoir des porte-paroles différents. Il est subdivisé sur le plan politique pour une raison très simple. Je l'ai dit tout à l'heure. On n'attrape pas les mouches avec du vinaigre et on ne conquiert pas les petits employés, les cadres, les paysans avec les mêmes. Alors on se fabrique des partis. Qui les finance ? Qui les dirige ? Je renvoie à mes ouvrages sur les années 30, c'est une caricature. Non pas parce que je suis caricatural, mais parce que la réalité est caricaturale.
Oui.
Donc, entendons-nous bien, le patronat est totalement unifié. Je dirais qu'il est totalement dépendant de ces organisations, et inversement. Mais la classe ouvrière, elle serait indépendante quand elle dépend du patronat, de l'État et éventuellement d'États étrangers ? Ben non. Non.
Elle serait libre.
Voilà, on me dira, mais le mouvement communiste a dépendu de l'étranger. Ça n'est pas faux. Il faut bien dire honnêtement que la pauvreté, un signe des mouvements révolutionnaire impliquait en effet que le premier État socialiste fut généreux du peu de deniers qu'il avait. Ça, c'est certain.
Ah oui.
Et c'était officiel.
Et comment lui en vouloir, de fait, quand on voit tout l'arsenal qu'il y a en face ?
Bien sûr, le mouvement révolutionnaire avait contre lui l'État, le patronat, une grosse partie du mouvement ouvrier.
Mais oui.
Dépendait de l'État et du patronat, parce que c'est la question de Tours. Hein. Et le mouvement révolutionnaire, il était pauvre comme Job. Mais J'avais fait remarquer d'ailleurs à une journaliste très sympathique de l'Humanité, il y a un certain nombre d'années, il y a plus de 20 ans, parce que c'était au moment de l'agression contre la Yougoslavie.
Ah oui, oui.
Et de cette position du PCF qui...
99,
oui. 99, qui était officiellement neuve, parce que c'était une telle rupture dans la solidarité internationale que pour des gens de ma génération, ça a marqué quand même, ça a été un choc terrible. Hein.
A raison. Bon.
Eh bien, j'avais fait remarquer à une journaliste, j'avais dit, dis donc, vous n'avez plus la gouvernante soviétique, tu vois à quoi ressemble l'humanité, qu'est-ce que vous avez maintenant? Vous avez la gouvernante américaine, votre politique étrangère, elle est directement importée des dépêches américaines. Et la journaliste, dont je tairai le nom, a reconnu bien volontiers qu'on était passé d'une dépendance à une autre. Attention, quelle dépendance? Car quand on regarde le patronat, quelle est la question de l'indépendance ou de la dépendance? C'est simplement une question de dépendance de classe.
Bien sûr, évidemment.
Le patronat est dépendant de sa classe. Les organisations patronales sont dépendantes de leur classe. Les organisations ouvrières, on n'a pas eu le temps de le dire, sont, parce qu'elles sont en position exposée et dépendante, elles ne sont pas dépendantes d'elles seules.
Mais bien sûr.
Elles sont dépendantes des forces dominantes. Voilà. Un salarié à qui on dit « Oh, intelligent comme vous êtes !» Oh, vous savez, voilà, on va citer Irving Brown. Irving Brown, comment il a fait la conquête? Il se pointait dans les syndicats. C'est aussi caricatural que ça. Hein.
Oui, oui. Alors,
j'ai des documents, alors, vraiment... absolument inattaquable, hein. y compris les ambassadeurs racontant comment ça se passe, c'était à mourir de rire. Donc il fait une petite balade en Suisse fin 46, début 47, et puis il se pointe dans un syndicat et il dit aux représentants, enfin aux dirigeants syndicaux, « Oh, un homme comme vous, pas de secrétaire, pas de voiture, mais vous vous rendez compte ?» Et là, il tombe sur un bec. Le gars en question, il dit non merci. Je signale que ça a fait l'objet des discussions entre confédérés et unitaires en 47-48. Quand on lisait l'Humanité, on se disait oh là là, c'est exagéré. Et puis, pas du tout, pas du tout.
Non, mais...
C'était ce que décrivait notre ambassadeur à Berne, Henri Hoppenot. Je peux dire Henri Hoppenot, grande bourgeoisie, tout ça. D'ailleurs,
oui.
Tout ambassadeur. Hein. Bon, mais c'était à mourir de rire. Un communiste n'aurait pas raconté ça mieux. Hein. Bon. Et donc, c'était très clair. Le premier disait non. Il trouvait un deuxième ou un troisième qui disait oui.
Pas forcément. À un moment donné, j'allais presque dire c'est la séduction, mais ça existe encore aujourd'hui.
Mais de toute façon, mais c'est bien sûr. Voilà. Oui. La séduction... elle emprunte toutes les voies.
Ah, ça va souvent. Hein. Eh oui.
La séduction, elle finit toujours d'une certaine manière par la corruption. Je regardais avant qu'on ne discute, je ne sais plus pourquoi, j'ai trouvé le nom de Michel Naudy, qui a été un journaliste communiste important.
Oui, et qui a eu une fin tragique d'ailleurs.
Tragique, hein, qui.
Ouais.
Paraît-il se serait suicidé. Bon,
Oui. Voilà.
Mais c'est très important, je renvoie d'ailleurs les auditeurs à cette réflexion, c'est très très important, ça se passait, si je ne m'abuse, en 2011, et il expliquait comment, si un journaliste, comme c'était son cas, était entré sur un grand média, en l'occurrence sur le service public de la télévision, et s'il y était resté, c'est qu'il avait donné des gages.
Bien sûr. Et là, tu fais référence au documentaire Les Nouveaux de Chandra, qui avait connu un grand succès.
Voilà. Et c'était un extrait de son intervention.
Tout à fait.
Dans le documentaire. Je renvoie d'ailleurs les auditeurs à notre conversation parce qu'il figure autre chose. y figure ce qui a valu l'enfer à Naudi, c'est-à-dire le reportage sur Malik Houssekine.
Oui.
D'où il ressortait, et il y a le lien, il y a le documentaire de 86 qui a sonné le glas de son rôle effectif, parce que comme il disait, j'ai plus été payé à ne rien faire, j'ai été payé pour ne rien faire. Et on voit le reportage duquel il ressort que les casseurs partent en civil, bien habillés comme il faut, tous en masse de la mairie de Paris avant d'aller casser. Je dirais que nous sommes au cœur de l'actualité.
Ah oui, ça ressemble furieusement à ce que nous pouvons voir depuis plusieurs années, hein, disons-le clairement. Voilà. Et curieusement, d'ailleurs, très souvent, les mouvements vraiment résistants communistes sont attaqués. On se demande pourquoi. Oui. Bonne question qu'on pourrait poser. Et écoute, justement, là pour conclure, et je te remercie d'abord pour toutes ces précisions fondamentales, parce que c'est vrai que beaucoup d'auditeurs pourraient se dire quand même, c'est pas possible, c'est tellement gros, c'est tellement énorme. Mais justement,
c'est vrai.
Bah ouais, plus c'est gros, mieux ça passe. On sait très bien que un ancien maire de Paris et président de la République le disait volontiers, d'ailleurs, et le faisait volontiers. Non seulement il le disait, mais en plus il le faisait. C'est ça l'avantage. Mais effectivement, on voit bien cette question de la dépendance. L'indépendance est centrale, et ton ouvrage résumé, comme tu l'as dit, avec cette perspective historique, le montre parfaitement bien. Finalement, en conclusion, j'ai presque envie de dire que tu as fait référence au congrès de Tours, à ce 100e anniversaire dans lequel nous sommes. Quelque part, c'est même pas quelque part, c'est la seule solution. L'indépendance, la véritable indépendance syndicale, elle est liée en réalité à des liens, j'allais dire, organiques avec un parti communiste qui lui aussi est véritablement indépendant. Parce que c'est pas en recevant des subsides de l'Union européenne ou que sais-je encore, on va pouvoir mener une bataille.
C'est ce que je disais tout à l'heure. L'indépendance ne se mesure qu'en termes de classe.
Mais oui.
Le patronat est indépendant parce qu'il gère ses affaires, c'est vrai, très aidé par l'État et le contribuable, il faut le dire. Hein.
Oui.
Hein. Mais il gère ses affaires en toute souveraineté. Le mouvement ouvrier n'a jamais géré ses affaires en toute souveraineté. Il faudrait pour cela, je dirais, que les classes dirigées, les classes dominées deviennent classes dominantes. Et ça nous amène d'ailleurs, j'ai évoqué des brochures anciennes auxquelles il faut se référer, ça nous amène à une tâche qui est extrêmement importante aujourd'hui pour appréhender le réel, c'est-à-dire refaire du marxisme, comprendre ce que c'est que le capital, le travail, le capitalisme, le mode de production, et sortir de cette espèce de situation inextricable qui est la conséquence de la liquidation des organisations indépendantes de défense des salariés, de la classe ouvrière et des salariés. Car ce terme d'indépendance, je le répète, c'est un terme qui ne se lie qu'en termes de dépendance de classe.
Bien sûr.
Exclusivement, et pas autre chose. Et pour ça, pour se débarrasser de la gangue, c'est plus qu'une gangue même, qui nous encombre, eh bien, il faut recommencer à réfléchir et notamment s'initier au béaba des explications marxistes qui étaient si lumineuses. Il suffit de constater que des travaux de 1845 ou 1892 sont tellement éclairants aujourd'hui pour comprendre la réalité, pour saisir l'importance d'en revenir à cette formation qui a disparu. La classe dirigeante forme les siens, tout le temps, en tout, à tous égards.
Bien sûr, dans tous les domaines.
Voilà. Et les dominés, quand ils n'ont plus de mouvement à leur service, exclusivement à leur service, ne peuvent pas bénéficier du tout petit avantage dont parlait Lénine quand il disait que grâce au mouvement marxiste, il existait un petit peu d'idéologie prolétarienne qui flottait dans la société, eh bien, la liquidation des organisations de défense a fait disparaître ce qui faisait la force du mouvement ouvrier, qui lui permettait de ne pas être toujours sur les positions de ce qui était objectivement son adversaire de classe. Car il n'y a pas d'alliance objective possible entre celui qui vit de son travail et celui qui, par la détention du capital, par ce que lui apporte en permanence le pillage, non seulement par l'exploitation directe, mais de nos jours, via l'État, par le contribuable, il n'y a pas de sortie de là. Si on ne veut pas analyser ça, et si on ne veut pas analyser ça en revenant à la base du marxisme, alors on écoute France Inter tous les jours, on lit n'importe quelle presse dominante et on regarde la télé et on ne comprend rien ou on comprend tout à l'envers. Eh bien, ma foi, c'est donc de ce carcan aussi qu'il faut sortir. Et pour ça, il faut faire de l'histoire et il faut se battre autant pour que l'histoire puisse recommencer à être une histoire scientifique que pour refaire monter le niveau de nos malheureux élèves en mathématiques qui signent en quelque sorte l'abaissement que les classes dirigeantes, l'abaissement du pays, l'abaissement de souveraineté nationale, l'abaissement de puissance, l'abaissement de capacité que les classes dirigeantes dépendantes de l'impérialisme américain ont souhaité et obtenu.
Bien que j'ai eu de l'aisance à partir vers l'inconnu, j'aurais pourtant jamais cru y mettre autant d'excellence. Mon amour propre comme une lance pointe vers l'obscur, le tordu, la besogne d'un mec obtus qui s'abîme de persistance. J'ai bien failli perdre le sens et beaucoup s'y sont perdus. Combien d'amis elle a eu, celle qu'on nomme des espérances? Pourtant je reste comme en transe, attaché comme un mordu à cette chose qui épuise, tu me ferais des places immense. J'ai les pieds lourds, l'esprit rance, je suis épuisé, y'a plus tu. Y'a des jours où je me situe entre le néant et l'absence. Pourtant encore si j'avance, c'est qu'elle me colle, me pollue. Ma saleté d'espérance. J'aurais voulu me prélasser entre divan et télé, mais y'a la sueur qui coule et les idées qui dérangent. La sueur noie les idées et je reste un peu lassé. Mais bientôt une vague me saoule, m'aspire, me noie, me démange. Le monde s'est laissé régler, les foules sont apprivoisées. L'économie est une bible, consommation est leur ange. Et on prie l'esprit plié pour qu'il nous laisse épargner. On croit qu'on décroche la lune avec nos ailes de mésange. Et quand je parle de mes projets introuvables chez le VRP, on trouve que je suis endiablé, on dit de moi que je m'enfonce. Fini par dire que je suis fâché, fauché, je deviendrai fâché avec ma saleté d'espérance. De tête ont repris et tous les mots qu'on s'est dit, nos vieux plans, nos stratégies valables pour changer trois mondes. On pense plus, on les oublie, on en rit et on sourit. Pourtant dans la tête réside une voix endormie qui songe. Elle sommeille dans un bon lit à l'édredon bien rempli. Elle s'enfonce dans tendre blic, son lit ressemble à une tombe. Mais dans mon esprit meurtri, cette vie n'est pas endormie. Son lit doit être fait d'ortie car elle gratte et ça me ronge. Elle m'impose tous ses ennemis, elle m'engraine vers les conflits. Plonge ma tête dans mon vomi, quelles qu'en soient les conséquences. J'ai des taches d'antipathie, des boutons de fièvre incompris. C'est ma saleté d'espérance. Quand tu entendras ce morceau, ça sera pas parce que je perdure, ou bien parce qu'en coup dur je l'aurais chanté dans le métro. Mais s'il passe à la radio ou s'il crache dans ta voiture, sache qu'à son stade d'écriture j'étais assis dans un bistrot, refusant de vivre des rimes, préférant vivre d'intérim, pour laisser libre cours à l'art, sans patron, sans référence, laissant loin de moi cette prime qui rend bien médiocrissime, laissant mes mots devenir star, révolutionner cette science, ma plume jouant de l'escrime pour m'aiguiser dans l'estime, autant des formes assassines et pourtant je reste dans la danse. C'est que dans mon malheur prime, mon ami le plus intime, ma saleté d'espérance.